Bon bah je laisse un peu grand, que tout le monde connaît plus ou moins.
Merci de me laisser la parole. C'est un petit peu sur la pointe des pieds que j'aborde ici l'étude de l'essai sur les fondements de la géométrie de Russell, publié en 1897. Alors pourquoi je l'aborde sur la pointe des pieds? Parce que je ne suis pas spécialiste de l'histoire de la géométrie. Il y a des chercheurs beaucoup plus compétents que moi qui vous parlent de ce sujet de manière sans doute beaucoup plus approfondie que je ne vais le faire. En particulier Philippe Navenant, qui vient d'arriver et qui est l'auteur d'un article paru en 2000 intitulé « La polémique entre Poincaré et Russell au sujet du statut des axiomes de la géométrie » dans lequel il rentre pas mal dans les détails de ce travail à propos de la polémique avec Poincaré. Donc, je vais d'abord préciser pourquoi je me suis intéressée à cet essai de Russell et, en fonction de mon approche spécifique, comment je vais l'aborder. Et je voudrais dire tout de suite que je donne effectivement plutôt des axes de travail, des axes de recherche, que l'exposé d'un travail totalement bouclé. On s'en fout. Donc, si j'ai une petite compétence en tant que chercheuse, donc ce n'est pas sur l'histoire de la géométrie, c'est, comme plusieurs d'entre vous le savent, sur l'histoire des mathématiciens de l'école algébrique anglaise de la première moitié du 19e siècle. Donc, ce n'est pas du tout géométrique du tout, parmi lesquels j'ai surtout étudié Peacock, Babbage et Boole. Donc, à partir... De leurs travaux, je me suis surtout intéressée au rapport entre algèbre et logique. J'ai donc d'abord rencontré Russell à partir de l'entreprise logiciste du début du XXe siècle, à partir de sa correspondance avec Frege sur le paradoxe qui se trouve, que Russell découvre dans les lois fondamentales de l'arithmétique de Frege, et à partir des Principia Mathematica écrits avec Whitehead, qui est publié entre 1910 et 1913. Il y a donc eu d'abord un premier étonnement de ma part en apprenant que Russell avait d'abord publié en 1897 cet essai sur les fondements de la géométrie, qui va donc immédiatement susciter l'intérêt de Coutura, puis la polémique avec Poincaré, que Philippe Navenant a étudié, et qui va donner lieu à une traduction en français dès 1901, faite par Cadena, avec des notes de Coutura. Alors, Russell a eu beau déclarer que c'est en 1900, lors de sa rencontre avec Peano au Congrès international de philosophie, que la logique symbolique se révéla à lui, je cite, comme un instrument d'analyse permettant d'étendre la précision mathématique à des domaines où régnait la confusion du langage philosophique, c'est ce qu'on lit dans le DSB. Je me suis donc demandé, donc deuxième interrogation, pourquoi et comment Russell avait d'abord produit un travail sur la géométrie et puis aussi rapidement il avait changé de centre d'intérêt pour passer de la géométrie à la logique mathématique. Quelle signification ça pouvait avoir pour les relations quelle signification ça pouvait avoir pour les relations existantes alors entre géométrie et logique ou entre géométrie et algèbre? La question que je me pose en particulier, vu mon travail initial, c'est est-ce que Russell travaille exclusivement en référence au travail de Frege, comme on le lit toujours, hein, parce que très souvent on fait commencer la logique mathématique aux travaux de Frege, ou bien, dans la mesure où il est formé à Cambridge, est-ce qu'il entretient une relation particulière avec les travaux de l'école algébrique anglaise? En particulier, comment ces travaux sont-ils perçus à Cambridge 50 ans plus tard, puisque les travaux de Peacock, c'est dans les années 30, mais le travail de Boole, c'est dans les années 50. Donc voilà déjà deux questions. Ensuite, à propos toujours de l'école algébrique anglaise, quand je me suis préoccupée de comprendre la surprise qui avait été causée par l'émergence de ces travaux algébriques qui insistaient sur le caractère essentiellement symbolique de l'algèbre, des travaux qui d'ailleurs sont souvent appréciés comme relevant d'une approche moderne. Dans une Angleterre où les mathématiques apparaissaient alors plutôt comme souffrant d'une certaine sclérose, j'avais beaucoup étudié le contexte dans lequel ces algébristes avaient travaillé. J'avais notamment mis à jour le fait que ces mathématiciens, Peacock, Babbage, ou dans une moindre mesure, étaient aussi des réformateurs convaincus, qui étaient intervenus activement dans la création de nouvelles institutions scientifiques et dans la réforme de l'université dans les années 50, avec l'idée explicite que la science ainsi produite serait un ferment actif dans la réunification des valeurs culturelles du pays. Un pays qui, ne l'oublions pas, dans les années 30, sort de la révolution industrielle, la première du genre, et qui se doit donc d'en assimiler les effets. Dans mon travail, j'ai pu montrer, en tout cas je l'espère, que cette détermination réformatrice et unificatrice n'avait pas été sans effet sur leur conception de l'algèbre. En effet, la séparation radicale que réalise Peacock entre, d'une part, ce qu'il appelle l'algèbre symbolique, et qu'il considère comme un langage du raisonnement symbolique, ou encore comme le lieu des vérités nécessaires, c'est un terme qu'on va retrouver souvent, et d'autre part, l'algèbre arithmétique, qui traite à la fois de science de suggestion et de lieu des vérités contingentes. Donc, cette séparation tentait à la fois d'intégrer le recours à l'expérience, qui était assez vital dans le climat de critique des institutions traditionnelles liées au passé, au début du XIXe siècle. Donc il veut intégrer le retour à l'expérience, intégrer les pratiques inventives en mathématiques, qui ont lieu donc dans ce qu'il appelle l'algèbre arithmétique, une espèce d'algèbre pratique. Mais en même temps, il veut les subordonner à une logique purement symbolique, qui est celle de l'algèbre symbolique et celle des opérations. C'est donc une école de pensée tout à fait particulière qui se prolonge après le travail de Peacock dans les travaux, par exemple, de Gregory ou de Boole, pour laquelle la vérité des mathématiques n'est pas fondée d'abord sur la signification des objets, mais sur la nécessité de leur articulation logique. Donc l'interprétation est, ou la signification, il parle plutôt d'interprétation à cette époque, est subordonnée à la logique opératoire et à ses transformations. Leur conception de la vérité, dans ce qu'elle a d'éternel, emprunte beaucoup à la conception de Locke dans son essai philosophique sur l'entendement humain. Donc en imposant la primauté logique des lois opératoires, ces mathématiciens, tout en fondant la connaissance sur l'expérience, subordonnait celle-ci à la symbolique des processus de transformation que Boole va identifier avec les lois de la pensée. À l'occasion de ce travail, j'ai eu l'occasion d'écrire qu'avant les nouvelles problématiques introduites par les géométries non euclidiennes, les travaux de l'école algébrique anglaise avaient représenté un premier moment d'interrogation fondamentale sur la distinction entre validité logique et vérité des mathématiques. Donc une troisième interrogation à propos de Russell et de son travail sur les axiomes de la géométrie était donc de se demander sur quoi il se proposait de fonder la vérité des géométries non euclidiennes ou de la géométrie projective, et si la façon dont il appréhendait le problème se situait en continuité ou en opposition avec cette problématique symbolique qui avait tant marqué Cambridge dans la première moitié du XIXe siècle. Donc les questions que je me posais relativement au travail de Russell en géométrie était donc, quel est le lieu de la signification? Qu'est-ce qui fonde la nécessité? La nécessité est-elle seulement logique et opératoire ou est-elle portée par la signification? Il s'agit donc, pour moi, davantage d'inscrire le travail de Russell dans le contexte anglais de la fin du XIXe siècle que dans celui des débats avec Poincaré. Non seulement parce qu'ils ont déjà été traités par Philippe, mais aussi parce que mes propres centres d'intérêt m'orientent davantage vers la question de savoir qu'est-ce qui se passe avant 1897, avant la production de ce travail, et pas sur la façon dont il est reçu. D'autre part, Russell a fait ses études à Trinity College, à Cambridge. Donc, je me posais la question de savoir comment il avait effectivement, si les idées, les conceptions des mathématiciens de l'école algébrique anglaise étaient restées vivaces à la fin du 19e. Parce que les mathématiciens de l'école algébrique anglaise avaient essayé de faire passer en force l'enseignement de l'algèbre en lieu et place de l'enseignement de la géométrie comme savoir fondamental à Cambridge dans les années 40. Donc je voulais savoir s'ils y étaient vraiment parvenus ou pas. Parce que quand on fait une étude, on a un peu tendance à croire que, bon, parce qu'ils l'ont fait, eh bien, ça a marché et que tout le monde s'en est servi après, et ce n'est pas forcément évident. Bon. D'autre part, donc l'essai de Russell paraît en 97, mais c'est la version remaniée d'un premier texte, qui est une dissertation écrite en 1895 pour devenir membre de Trinity College à Cambridge. C'est donc dire que l'optique dans laquelle il a rédigé son travail n'est sans doute pas étrangère à la conception de l'enseignement des mathématiques à Cambridge à ce moment-là. Bon. Voilà, donc c'est à ces différentes questions que j'ai envie d'essayer d'apporter quelques éléments de réponse. Bon, et le travail que je vais vous présenter, c'est plutôt un travail de balisage du terrain que des réponses définitives à ces questions-là. Donc, la première partie un peu courte de mon travail, c'est de voir un petit peu comment Russell a été amené à écrire cet essai. Donc, il dit lui-même, mais seulement en 1948, qu'il aurait été en contact avec les géométries non euclidiennes avant ses études à Cambridge. Mais il faut se méfier un petit peu des points de vue rétrospectifs des mathématiciens et des autres d'ailleurs, hein, les souvenirs, c'est toujours un petit peu délicat. Les premières considérations qu'il fait sur le statut épistémologique de la géométrie non euclidienne se trouvent dans des petits écrits qu'il a rédigés après son examen, son Mathematical Tripos, donc après 1893, au cours de sa dernière année d'étudiant. Et dans ces premiers écrits, il est resté dans le cadre des arguments métriques. Ensuite, il est allé passer 3 mois à Berlin, les 3 premiers mois de 1895, à Berlin, pour étudier l'économie. Mais il y commence la rédaction d'un manuscrit qui termine en juin et qui s'intitule « Observations on Space and Geometry ». Il sera en Allemagne donc très influencé d'une part par Kant et d'autre part par Félix Klein, chez qui il étudie cette fois la géométrie projective. Et le manuscrit donc, du fellowship dont j'ai parlé tout à l'heure est perdu. Russell dit que Whitehead l'a beaucoup critiqué et qu'il en avait lui-même conclu qu'il était sans valeur. Malgré tout, il n'a pas abandonné le sujet, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une version remaniée du manuscrit, de ce manuscrit qu'il a publié en 97. Et puis, il a voyagé aussi aux États-Unis en 96, en Pennsylvanie et à Johns Hopkins University à Baltimore, où il a exposé le contenu de cet essai de 1895. Dans cette période, pendant ces années d'études, Russell est très imprégné de l'idéalisme de la fin du XIXe siècle. Il est en particulier impressionné par les idées de Bradley, qui est un philosophe idéaliste d'Oxford, et par MacTaggart, qui est un philosophe idéaliste lui aussi, membre du groupe qui s'appelle The Apostles, dont Russell fait partie avec Whitehead. Et l'essai de 1897 est d'ailleurs dédié à MacTaggart. Alors, il faut dire quelques mots de Bradley, qui publie des Principles of Logic en 1883. Et c'est un ouvrage qui marque d'une certaine manière l'apogée de l'idéalisme britannique de la fin du XIXe siècle. Bradley se donne comme objectif l'analyse de la pensée humaine, mais en niant catégoriquement la pertinence de toute espèce de système formel dans cet effort d'analyse. C'est dire que ce que la logique manipule, ce sont effectivement des concepts chargés de signification et pas du tout des symboles vides comme il présente les mathématiques à cette époque-là dans ce travail. Donc Russell est influencé par Bradley, mais en même temps Russell a une formation mathématique puisqu'il a préparé le Mathematical Tripos avant de s'orienter vers le Moral Sciences Tripos. Donc il va avoir une approche un petit peu plus compliquée de la nature de la connaissance mathématique. Donc ça, c'est un petit peu pour situer le contexte dans lequel il a préparé cet ouvrage. Deuxième partie, qu'en est-il, donc j'ai dit que je voulais essayer de voir clair dans cette question-là dans mon introduction, qu'en est-il des études mathématiques à Cambridge dans la deuxième partie du XIXe siècle? Eh bien, si Peacock était un mathématicien Whig anglican progressiste, qui avait d'ailleurs des rapports de discussion avec Lord John Russell, le grand-père de Bertrand, Peacock va quitter Cambridge en 1839 pour aller dans un diocèse voisin, et alors que William Whewell va être nommé Master of Trinity College en 1841 par un ministre Tory, Robert Peel, et ceci afin d'éviter précisément l'élection de Peacock à ce poste. Whewell est lui aussi un conservateur et il est surtout l'auteur de deux ouvrages très importants qui s'appellent l'un History of Inductive Sciences et Philosophy of Inductive Sciences, publié en 41 et 43. Et à partir de 1835, Whewell milite de manière très active à la restauration de la géométrie comme savoir fondamental dans l'université de Cambridge. Donc, La première difficulté, c'est que le programme d'enseignement qu'a lancé Peacock, à la fois dans son traité d'algèbre de 1830 et dans la réédition de 42-45, est un programme d'enseignement assez difficile, dans la mesure où, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il sépare algèbre arithmétique et algèbre symbolique, et il essaie de faire travailler les étudiants sur des symboles vide de signification. Donc ça ressemble assez à la réforme des maths modernes. Enfin, moi, quand je lisais les textes de de cette époque, j'étais totalement frappée par ça, qu'on apprenait, comme vous voulez apprendre aux étudiants à manipuler des symboles vides de signification, et ça s'est assez vite avéré assez difficile. Et quand on lit les traités, c'est plus un traité de réflexion philosophique sur la nature de l'algèbre qu'un manuel à l'usage vraiment des étudiants, c'est un peu délicat. Bien. Donc, ça, c'est une première difficulté, une difficulté pédagogique. D'autre part, il y a la conception générale de qu'est-ce que c'est l'enseignement des maths à Cambridge. Donc, les progressistes ont milité dans la première moitié du siècle pour que ces collèges qui s'appelaient Seminaries of Sound Learning and Religious Education deviennent des professional seminaries, et le terme de professional seminaries fait peur aux conservateurs et à des gens comme Whewell, qui lui va militer pour ce qu'il appelle l'éducation libérale. Donc il écrit de 1835 à 1845, et c'est réédité en 50, un grand ouvrage sur l'enseignement des mathématiques comme partie de l'éducation libérale. Et dans cet ouvrage, il sépare l'enseignement entre ce qu'il appelle les études permanentes et les études progressives. Donc dans les études permanentes, on doit trouver tous les enseignements dont les bases sont extrêmement stables, n'ont pas changé depuis la nuit des temps. Enfin, j'exagère, je caricature un petit peu, mais c'est ça, c'est donner aux étudiants l'image d'un monde stable et qui ne changera pas. C'est ça le but de l'éducation de base. Et après, on peut apporter aux étudiants une spécialisation. Et Whewell met l'algèbre symbolique de Peacock dans les études progressives et pas du tout dans les études permanentes. Et à partir de la réforme de 1848, on va assister donc à un retour en force de l'enseignement de la géométrie euclidienne comme savoir fondamental, comme savoir de base dans l'enseignement à Cambridge. Troisième raison de ce retour en force de la géométrie, des raisons plus proprement philosophiques ou philosophico-politiques, parce que je ne pense pas que la philosophie s'arrête à la philosophie. Je pense qu'il y a des enjeux, et là on va le voir, autour de la philosophie. En disant que l'algèbre symbolique, c'était l'étude des lois opératoires avec, sur des symboles dépourvus de signification, ou bien lorsque Boole dit que la logique, c'est l'étude des lois de la pensée, tout ce groupe de mathématiciens conçoivent les mathématiques comme une science de l'esprit, qui offre à l'individu une liberté de penser par rapport à la nature, et qui apparaît à cette époque, il y a beaucoup de textes là-dessus à ce moment-là, comme une menace pour la religion. Une menace pour la religion parce que Cambridge, c'est encore une université anglicane, Oxford aussi, la première séparation radicale avec la religion aura lieu en 1850, enfin dans la règle, il y aura déjà des séparations dans les réformes de 50, mais la séparation plus radicale n'aura lieu qu'en 1870, et encore elle ne sera pas complète. Bon, donc, l'idée que les mathématiques puissent être une science de l'esprit, c'est considéré comme dangereux, parce que ça instaure une liberté individuelle, quelque chose de difficilement maîtrisable, puisqu'on peut faire des opérations sur des symboles dont on ne maîtrise pas la signification. Donc, face à cette conception-là, Whewell, dans ses deux ouvrages, dont je parlais tout à l'heure, History of Inductive Science et Philosophy of Inductive Sciences, va imposer un point de vue descriptif sur la nature des définitions mathématiques. Donc, il va affirmer que la vérité des mathématiques, la vérité nécessaire des mathématiques, repose sur la fidélité des concepts primitifs à ce qu'ils décrivent, concepts de nombre, les concepts d'espace, etc. Et que l'essence de la connaissance mathématique n'est pas atteinte par la seule compréhension des connexions entre les termes, ce qui était la perspective de Locke ou la perspective de Peacock, sur la conception de la vérité ou de la connexion ou de la démonstration. Hein. Pour Whewell, l'essence de la connaissance mathématique requiert une totale compréhension des choses auxquelles ces termes seraient faits. Et Whewell est ce qu'on appelle en anglais un nativiste, mais que nous on appellerait plutôt un innéiste, hein, pour qui la connaissance vraie du monde naturel est essentiellement innée. Donc les choses sont connues intuitivement plutôt que construites à partir de l'expérience. Donc il y a là une lutte, hein, entre empiriste et innéiste. Donc Whewell est du côté des innéistes et Peacock, me semble-t-il, proposait une position fort, philosophiquement fort intéressante qui, à mon avis, elle n'a pas été comprise, hein, qui était d'accepter l'expérience mais de la maîtriser par la logique. Mais bon, je pense que ça n'a pas été perçu. Donc on est revenu à l'enseignement de la géométrie. Alors, la question particulière de la nature de l'espace et du temps, par exemple, c'est quand même pas tout à fait une question nouvelle au XIXe siècle. Hein. Elle s'est déjà posée au temps de Newton et de Leibniz relativement à l'élaboration du calcul infinitésimal, puisque Newton faisait de l'espace et du temps des entités réelles, alors que Leibniz les concevait comme des entités intellectuelles constituant l'ordre de coexistence et de simultanéité des substances simples. Donc, ce n'est pas la première fois au XIXe qu'on se met à interroger les notions d'espace et les notions de temps. En ce qui concerne la nature des mathématiques, c'est-à-dire est-ce que c'est une science de l'esprit, est-ce que c'est une science de la nature, il me semble que cette question-là repose sur un problème philosophique fondamental qui est effectivement celui de la vérité, c'est-à-dire de l'origine des principes d'une science déductive. Et la question fondamentale, c'est de savoir qu'est-ce qui fonde le caractère objectif des mathématiques en tant que science déductive. Et cette question, elle se pose, je dirais, depuis Descartes et Galilée. Hein. À partir du moment où on a imposé une conception expérimentale de la science, ça c'est pour Galilée, et qu'on a imposé la pensée comme le fait du sujet, le cas de Descartes, eh bien, on pose comme problématique la question de l'élaboration du général à partir du particulier. Le particulier étant soit l'expérience, soit le sujet. Hein. Donc, au XVIIe siècle, aussi bien les idéalistes que les empiristes ont eu tendance à répondre à cette question en des termes théologiques. Descartes répond par l'existence de Dieu. Hein. De l'existence de Dieu, les idées innées et de la raison qui garantit le fait que le savoir est objectif. Hein. Pour un empiriste comme Locke, la question reste plus ouverte. Locke ne répond pas précisément à la question. Hein, et quand on l'interroge vraiment sur cette question-là, il répond que... Il répond que Dieu, encore une fois, a mis ces qualités-là au service de l'esprit, mais pour la connaissance du monde qu'il a créé. Donc il y a toujours un point opaque, je trouve, chez tous ces philosophes-là. Il dit, Dieu n'a pourtant pas négligé les hommes, quoiqu'il n'ait pas imprimé dans leur âme ses idées et ses caractères originaux de connaissance, parce qu'il leur a donné d'ailleurs des facultés qui suffisent pour leur faire découvrir toutes les choses nécessaires à un être tel que l'homme par rapport à sa véritable destination. Sa véritable destination étant la connaissance de Dieu. Bien. Donc, le premier qui va éloigner un petit peu la référence théologique pour répondre à cette question du caractère objectif ou général de la science, c'est Kant qui effectivement va inspirer aussi bien William Rowan Hamilton dans sa conception de l'algèbre comme science du temps pur que Whewell aussi dans sa recherche des concepts fondateurs des mathématiques et qu'on va retrouver présent y compris chez Russell qui va l'appeler le créateur de l'épistémologie moderne hein, puisque Kant propose une analyse des conditions de l'expérience en termes rationnels permettant d'échapper ou sinon d'échapper à la référence au divin du moins d'en reculer l'intervention tout en permettant de dépasser les oppositions entre les philosophies comme celle de Descartes ou de Locke. Donc, Kant fonde le caractère nécessaire de la géométrie sur la nature a priori de l'espace, qui est donc aussi bien au temps de Kant qu'au temps de Whewell en Angleterre avant 1850, l'espace euclidien. Donc, qu'est-ce qui va être, à partir de Whewell, investi de l'idée de vérité nécessaire? C'est la géométrie. Et on va constater que même chez les continuateurs de l'école algébrique anglaise, par exemple chez De Morgan ou chez Kelley, eh bien, l'un et l'autre vont renoncer à parler de l'algèbre symbolique en termes un peu ontologiques comme le faisait Peacock. Le caractère symbolique de l'algèbre va devenir chez ces auteurs un caractère technique. De Morgan, qui publie quatre articles intitulés « On the Foundation of Algebra », va réinvestir la question de la signification des symboles en s'appuyant sur la référence à des états mentaux et à des processus. Et il considérera le symbolisme opératoire de l'algèbre comme une technicité. Et il va parler non plus de l'algèbre symbolique, mais de l'algèbre logique. Kelley va lui aussi poursuivre un peu le débat sur la nature de l'algèbre. Il va reconduire la séparation entre algèbre arithmétique et algèbre symbolique, mais il va les appeler logistique et tactique. Et il va affirmer... Bon, je m'arrête là pour ce point. Alors, c'est donc effectivement ce retour en force du géométrique qui est le mieux à même de garantir une conception unitaire de la connaissance où la référence théologique va rester centrale en Angleterre et où la science va fonctionner comme norme de la vérité. Et à ce propos, je voudrais donner l'exemple de... j'avais tout à l'heure sous la main, oui. D'un texte que j'ai trouvé assez étonnant par rapport aux questions naïves que je me posais dans mon introduction. Un texte de Kelley de 1883, qui est un discours de présidence de la British Association for the Advancement of Science, que vous pouvez trouver dans ses œuvres complètes au volume 11, où on voit très bien les enjeux dont je viens de parler. Hein. Alors, contrairement aux progressistes de la première moitié du 19e, ils commencent par se démarquer radicalement l'utilité des mathématiques. Hein. Il dit les mathématiques sont reliées d'un côté à la vie courante et aux sciences physiques, et de l'autre à la philosophie, à nos notions d'espace et de temps, aux questions de l'universalité, de la nécessité des vérités des mathématiques et des fondements de la connaissance. Il remarque d'ailleurs tout de suite, on le verra après, il va se démarquer radicalement de Hamilton sur la référence de l'algèbre comme sur du temps pur, en disant qu'il n'y a pas de temps en mathématiques, hein, pour lui, dès qu'on parle de temps, on est en physique. Donc, Kelley affirme immédiatement qu'il préfère aborder la question de l'intérêt des mathématiques pour elles-mêmes, il développe une conception, les références qu'il fait, c'est des références à Platon et aux idées platoniciennes, avec le mythe de la caverne et la référence aux idées platoniciennes. Et ensuite, les références vont à Leibniz, à Kant et à Whewell, en disant que c'est lui qui a donné la meilleure exposition de toutes ces idées-là, et il se démarque radicalement de toute conception empiriste. Donc on va voir que à chaque fois, il y a il faut se démarquer de l'empirisme. Tous les textes qu'on va regarder commencent par se démarquer systématiquement de l'empirisme. Donc l'empirisme de John Stuart Mill, mais aussi l'empirisme de Riemann, donc il reprend le point de vue mathématique de Riemann, mais en affirmant que on a dans l'intellect une notion générale d'espace. Et c'est grâce à cette notion générale d'espace qu'on apprend par l'expérience, donc l'expérience encore est subordonnée à cette idée générale, on apprend par l'expérience que l'espace, c'est-à-dire l'espace physique de notre expérience, est sinon exactement, au moins au plus haut degré d'approximation, un espace euclidien. Pour ce qui est de l'expérience. Donc il faut bien qu'il y ait une idée générale d'espace, plus générale que l'espace euclidien avant, pour qu'on puisse penser en termes de géométrie non euclidienne ou de géométrie projective. C'est d'ailleurs ce qu'il essaye de présenter de manière imagée, puisque c'est un discours pour des scientifiques en général, mais pas forcément que des mathématiciens. Hein. Donc, et alors, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que, donc c'est une présentation générale de l'état des mathématiques en 1883. Hein. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est, en dehors du fait qu'il se démarque de la notion de temps, c'est le fait qu'il fait une espèce d'histoire que je dirais à la louche, hein, où les développements de l'algèbre sont rattachés à Ariot et Descartes, ce qui me paraît un petit peu léger, disons. Hein. Et puis alors, ce que j'ai trouvé assez, je me disais, tiens, il ne parle pas du tout d'école algébrique anglaise. Eh bien si, il faut attendre le dernier paragraphe où il dit, en dehors des mathématiques ordinaires, il y a quelques théories auxquels on peut se référer en les traitant d'algébrique ou de géométrique ou de logique, on ne sait pas trop. Hein. Et donc là-dedans, il y a essentiellement le travail de Benjamin Pierce de 1870 sur Linear Associative Algebra. Et il cite très rapidement Hamilton, dont j'ai dit tout à l'heure qu'il s'était démarqué de sa conception de l'algèbre comme science du temps pur, mais dont il reprend la théorie des quaternions. Grassmann, Clifford et Cox, qui est un auteur anglais qui va introduire le travail de Grassmann en Angleterre. Et donc, et alors, oui, ce qui est encore plus frappant, c'est que il parle d'Argan, Warren, Peacock comme tenant de théories géométriques. Bon, les bras m'en sont tombés. Théorie géométrique des imaginaires de la géométrie plane, alors que Peacock était radicalement anti-géométrie, en disant bien que justement la géométrie c'était une interprétation contingente des vérités nécessaires de l'algèbre symbolique. Hein. Donc la géométrie, c'était une interprétation parmi d'autres des calculs, mais en aucun cas il ne fondait son travail sur la géométrie. Donc ouais, ça n'empêchait pas d'ailleurs de faire quelques développements géométriques. Donc je me suis dit que son traité l'algèbre devait être quand même pratiquée, hein, puisqu'il s'est réfère de cette manière. Bon. Donc voilà pour ce qui est du retournement de perspective sur l'enseignement des maths, la conception philosophique de l'enseignement des maths en Angleterre dans la deuxième moitié du 19e. Donc, troisième partie, les développements de la géométrie non euclidienne en Angleterre. Donc je vais faire un petit inventaire d'une certaine manière des travaux qui ont été développés en Angleterre à ce moment-là, avant d'aborder le travail spécifique de Russell. Donc, en Angleterre, j'ai insisté sur la philosophie générale, c'est-à-dire ce qu'on développe beaucoup autour de l'enseignement, ce qui n'empêche pas, bien entendu, qu'il y ait des travaux de recherche. Alors, certains auteurs abordent les espaces de dimension supérieure tels qu'ils ont été suggérés par l'analyse. C'est le cas de Salmond en 1866, qui écrit un article où il envisage des espaces de dimension supérieure, mais où il considère la question comme seulement algébrique, c'est-à-dire indépendante de toute considération géométrique. Et il propose de conserver quand même le langage de la géométrie, disons par commodité, hein, mais sans avoir de perspective philosophique là-dessus. Donc il envisage ce qu'il appelle les espaces de dimension P, mais comme un jeu de langage ou une figure de style, sans aucune réalité conceptuelle ou physique. Kelley, en 1869, écrit un « Memoir on Abstract Geometry », publié, où lui aussi envisage des espaces de dimension supérieure, mais comme extension légitime de la géométrie de dimension 2 ou 3, ou comme besoin pour la géométrie. Mais il est clair dans son propos qu'il ne situe pas, donc il en a besoin, mais il ne lui accorde pas le même niveau de réalité que l'espace euclidien.